Super.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Professeur, il fait bon.
Tournedos, pas du tout, je veux ce gigot. Je le préparerai avec mon huile 100% tournesol, car elle m'aide à mieux équilibrer mon alimentation. Elle est légère.
En plus, l'huile de tournesol, souvent, elle est raffinée. Et donc, le raffinage, ça enlève quand même pas mal de choses. Sinon, il y a l'huile de pépins de raisin, qui est pas mal. Et puis, il y a une autre huile qui est super, mais qui coûte très cher, c'est l'huile d'avocat.
Les huiles d'Inkaichi, qui est très riche en oméga 3, mais également l'huile de chanvre.
Le colza, c'est au mieux neutre et au pire pas très bon.
J'adore l'huile de noix, avec une bonne tête de veau ou une salade.
Avec des frites?
Non, avec de l'huile.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster huile d'olive ou huile de tournesol ou huile d'arachide au rayon des huiles végétales. On avait des habitudes bien ancrées et des idées bien arrêtées. Aujourd'hui, il vous arrive peut-être de déguster, peut-être même sans le savoir, de l'huile de cameline, de l'huile de chanvre, de pépins de courge, de noyaux d'abricot. Et cette bonne vieille huile de noix ou de noisette, il paraît qu'elles n'ont jamais eu autant la cote. Plus que de simples matières grasses, ces huiles végétales alternatives seraient des condiments, des épices, voire des super aliments. Pourquoi ont-elles autant de succès? Comment on les utilise en cuisine? Quel goût ont-elles? Quels précieux nutriments peut-on attendre d'elles? On met de l'huile, on met des huiles avec nos invités du jour. Éric Vigeant, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes maître huilier, c'est comme ça qu'on définit votre métier?
Oui, tout à fait, voilà.
Maître huilier troisième génération d'une maison qui existe depuis 1930 à Clion-sur-Indre. On est entre Loches et Châteauroux, c'est bien ça?
Oui, Loches et Châteauroux, et sur l'axe principal.
Dans le département de l'Indre. Vigeant, une maison fameuse dont on retrouve la trentaine de variétés d'huile aussi bien dans les cuisines des grands chefs que dans les magasins bio. Et vous avez signé en 2009 Huile et saveurs aux éditions Ferré avec votre complice Denis Hervier, qui est là avec nous derrière la vitre de la régie, journaliste, dégustateur, dont on entend la voix notamment sur France Bleu Berry.
Ça a été un moment extraordinaire, ça a été deux années de voyage à travers les différentes régions en France, chez les vignerons, les propriétaires, et puis la découverte aussi de grandes tables de chefs étoilés, trois étoiles, deux étoiles, en tout cas de très très bons établissements. J'en garderai une mémoire exceptionnelle.
Et qui utilisent effectivement les huiles Vigeant. Il y a des bouteilles partout sur le plateau qu'on va déguster aujourd'hui. Et celle qui les utilise à merveille, c'est notre cuisinière Zora Levaché. Bonjour.
Bonjour.
Créatrice en cuisine végétale, vous êtes à la tête de Sonate. Vous n'en êtes pas à votre première, on va la déguster. Hein.
Non, c'est la deuxième fois.
C'est la deuxième fois. Des cantines bio et végétaliennes, vous en avez ouvert trois à Paris, et celle qui tourne toujours très fort, même en période de crise sanitaire, c'est celle de la rue Bourdaloue, Paris 9e.
C'est ça, à côté de l'église Notre-Dame de Lorette.
Ah, absolument, et une cuisine végétale vraiment palpitante, pétillante, intéressante. Vous allez dévoiler quelques recettes et tours de main bien huilées, et vous les avez même cuisinées pour nous. Dans la famille des chroniqueurs dont on va déguster, je demande aujourd'hui Arnaud Daguin, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Comment va-t-il, le Arnaud?
Il va mettre un coup sur le cocotier. Oui.
Un coup sur le cocotier, on va voir ça dans un instant avec votre coup de lame. Et nous sommes ravis d'accueillir en ce début d'année 2021 une petite nouvelle dans la bande dont on va déguster. C'est Zazie Tavissian, bonjour.
Bonjour.
Ça va, Zazie?
Bah ouais, je suis ravie d'être là.
Et on est ravis que vous nous rejoignez, journaliste gastronomie, créatrice de podcast, gastronome, émérite et érudite. On est vraiment ravis de vous accueillir. Et votre première chronique portera sur un sujet un peu glissant.
Oui, je vais vous parler d'une huile dont on entend beaucoup parler en mal et je vais essayer de vous la faire aimer un petit peu, peut-être.
Ouais, elle a la palme des huiles mal aimées, hein.
On peut dire ça.
Si vous avez des questions, des recettes, des suggestions à nous faire, amis auditeurs, envoyez-nous un mail. Là, on va déguster à radiofrance.com ou cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Retrouvez toutes les recettes de l'émission, nos podcasts, nos infos pratiques, nos coups de cœur sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
En ce début 2021, pour oublier la crise sanitaire, pour oublier la crise politique aux États-Unis, la grippe aviaire des canards, Arnaud.
Ah là là, mon Dieu,
ça, m'en parlez pas. C'est aussi une mauvaise nouvelle en ce début d'année. Rien de mieux que de tirer les rois avec une galette que je vous présente, que je vous invite à goûter. Il y a Arnaud qui fait même sauter une bouteille de vin pétillant. Alors dites-moi, les amis. cette galette, comment vous pourriez la décrire?
Elle est très très bonne. La pâte feuilletée est assez épaisse au-dessus. C'est un peu ce qui donne un côté croquant.
C'est vrai.
Et délicieux.
Et ce petit côté croquant est apporté, figurez-vous, par une opaline. Une espèce de petit caramel blanc comme ça qui vient apporter du craquant avec cette pellicule de sucre qui rend vraiment cette pâte feuilletée croustillante. Zazie Tavishian.
Moi j'ai la bouche pleine, je suis très contente d'avoir une galette ce matin et effectivement le feuilletage est super et elle est très gourmande aussi, très généreuse.
Très gourmande, un bon goût d'amande, Éric Vigeon.
Oui, moi j'aime beaucoup puisque je retrouve quand même un fruit que j'utilise chez moi. En trituration, en fabrication, c'est bien sûr l'amande.
Ouais.
Et là, la sucrosité, l'équilibre de la pâte, c'est vraiment parfait, je trouve délicieux.
Vraiment très bonne. Et vous avez remarqué que cette garniture justement est un peu foncée, Zora?
Parce que les amandes complètes. Je pense.
Ah, absolument. Ce sont des amandes brutes. Autrement dit, des amandes qui n'ont pas été émondées. Cela veut dire que le goût de la peau de l'amande intensifie justement cette sensation amande dans une crème d'amande qui n'en est pas tout à fait une. C'est de la frangipane. Différence entre crème d'amande et frangipane? D'accord. La frangipane, c'est de la crème d'amande à laquelle on a ajouté une proportion de crème pâtissière.
Je croyais que c'était qu'on avait ajouté une fève juste.
Oui, alors la fève, personne n'a eu d'ailleurs au passage.
Moi je l'ai.
Non.
Bravo. Ah, oh,
vous choisissez votre reine ou votre roi.
On n'est pas comme ça, nous.
Pas ma reine, alors.
Alors, quelques indices. Elle n'est pas parisienne, cette galette. Une grande attention est portée aux matières premières. On parlait des amandes. Et figurez-vous qu'elles sont bio, de Provence, et elles sont ramassées par Thomas Honoré à Châteauneuf-du-Rhône, au sud de Montélimar. Vraie performance quand même que d'utiliser des amandes made in France. Et effectivement, elles ne sont pas émondées. Elles sont de surcroît fraîchement broyées. Ça, c'est très important pour notre artisan, pour un goût plus intense. Par ailleurs, il utilise également du beurre AOP Charente-Poitou pour sa frangipane, mais aussi pour sa pâte feuilletée. Et la pâte feuilletée, c'est un feuilletage viennois. Il y a plus de beurre dans la recette que le feuilletage traditionnel. Et cette pâte feuilletée est de surcroît enrichie de lait et de crème des monts d'Ardèche qui viennent, le lait et la crème, de la laiterie Carrier à Vals-les-Bains. Ça vous donne une indication. Et oui, cette galette a volé vers nous depuis l'Ardèche. On remercie Arthur d'ailleurs qui nous l'a apporté train.
Elle a bien fait de voler jusqu'à nous. Je la trouve absolument excellente.
Mais elle est expédiable dans toute la France, figurez-vous. Elle est signée Pierre Chauvet, un pâtissier, chocolatier, glacier installé en Ardèche, connu comme le Loup Blanc entre Aubenas et Valence dans la Drôme, où il a d'ailleurs deux boutiques. Et je vous parle aussi de cette galette, non seulement parce qu'elle est super bonne, parce qu'elle est vertueuse en termes de matières premières, mais également parce qu'elle n'est pas très cher. Le prix de sa galette pour 6 personnes, 19 €.
C'est bien.
Ce qui est une véritable performance avec des produits de cette qualité. Pierre Chauvet m'a expliqué au téléphone hier à quel point ses marges étaient serrées au minimum pour satisfaire le plus de clients possible. Et comme je vous le disais, on peut se la faire expédier dans toute la France. En livraison FedEx, en 24 heures, elle arrive dans un état parfait. Alors bon, il y a le prix effectivement, pour le coup de l'affranchissement, les frais de port, c'est 11 € qu'il faut ajouter aux 19 €. Mais si vous avez la chance de vivre en Ardèche ou du côté de la Drôme, franchement c'est une très belle idée. Et enfin, Pierre Chauvet a deux déclinaisons créatives de sa galette des rois. Une galette signature à la frangipane et à la gelée de myrtille sauvage, gelée également là. On la goûtera ensemble tout à l'heure, moi je l'ai déjà goûtée. Elle est délicieuse entre rondeur et fraîcheur avec les notes un peu tanniques et acidulées de la myrtille sauvage. Mais également, puisqu'on est en Ardèche, une galette des rois frangipane et marron. Voilà, on la goûtera avec des marrons AOP d'Ardèche. Toutes les informations sur les galettes de Pierre Chauvet sur notre page internet. Arnaud Daguin, vous aviez une petite adresse à nous recommander.
Eh oui. En ce rude hiver où on déjeune souvent debout, transis dans la rue, grelottant sur un banc, il fait bon s'arrêter au café Mojo. C'est un petit bouclard, tourikiki, tenu par deux exquises nénettes, Sinem et Mine. L'une est turque et l'autre chinoise. Deux filles qui savent vous restaurer. Comme on restaure un vieux meuble oublié sous la pluie, voyez, vous retape à la chaleur de leur soupe, au moelleux de leur brioche fourrée. Aujourd'hui, contraint et forcé, le gourmet est ambulant. L'alliance sino-turque du café Mojo adoucira sans doute sa peine. 41 rue de l'Abbé Grégoire, dans le 6e, en face de Ferrandi.
Mais alors, en période de crise sanitaire, on peut quand même...
Eh bien, on y va, et puis on se fait accueillir avec un grand sourire, et puis c'est réconfortant, et puis de fait, on va être obligé d'aller manger dans la rue, quelque part. Mais c'est tellement bon, et c'est tellement gentiment fait, que on a presque l'impression d'être au restaurant, même quand on est sur le trottoir, en train de finir sa brioche.
Par 1 degré de température, le café Mojo.
Le café Mojo.
Rive gauche de Paris, c'est
oui,
ça
c'est vraiment un endroit formidable, quoique tout petit. C'est juste à côté de chez Antonin Bonnet, notre copain.
Ah, absolument, qui tient le restaurant 15 sous, étoilé Michelin. Et puis au rayon des bonnes nouvelles, une dernière petite info. Félicitations à notre chroniqueur Éric Morin, qui vient d'être nommé personnalité de l'année chez nos confrères de la RVF, la revue du vin de France. Voici un titre qui couronne son engagement d'avocat pénaliste dans la défense des vignerons qui ont choisi le bio, la biodynamie, les vins naturels, et qui font parfois face à une administration un peu tatillonne. Bravo donc à notre avocat gourmet Éric Morin, qui intervient régulièrement à ce micro les dimanches, auteur, je le rappelle, d'un livre hautement recommandable, Plaidoyer pour le vin naturel, aux éditions Nourriture Fût. Salut Éric et à la prochaine, on te voit très bientôt à ce micro. Cette émission est réalisée par Laurent Thomas avec Guillaume Roux, Nadia Chougui à la préparation et l'animation de notre page internet, Djoubaka pour la programmation musicale. Des huiles végétales variées, bonnes au goût et bonnes pour la santé. C'est juste après Coucou de François and the Atlas Mountains. Bon appétit sur France Inter.
Boire tout le train, ivre dérivé. Puis faire l'amour, rire après coup. Se dire qu'après tout, ce qu'elle m'avait fait, ça je ne risquais pas de lui courir après tout. Derrière la porte où elle se cache, déjà s'en trouverait. Derrière la farce, les faibles cœurs. Leurs absurdités, elle qui disait bonsoir mon amour, koala en chérie, faisons un tour, texte désormais. Coucou, 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 comment vas-tu? Comme si elle m'avait jamais venu, comme si j'étais un inconnu. Ce genre de truc, comme si elle m'avait jamais vu nu. Encore un été, j'attends. Le soir venu, dire oui à tout. Se sentir bien moins impliqué. J'suis sans nouvelles, j'suis sous un arbre, je réponds ah ouais. L'homme ça s'est cassé, c'est l'ellipse éclipsée qu'ai-je imaginé. Celle qui disait bonsoir mon amour, koala en chérie, faisons un tour, texte désormais. Elle demande puisque je peux plus lâcher ma dose dans son. Coucou, 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 comment vas-tu? Comme si j'étais un inconnu, comme si elle m'avait jamais vu nu. Je jetterai sa brosse à dents. Jeter sa brosse à dents.
Et si on se plongeait d'emblée dans le bain d'huile avec une première recette que nous a concoctée Zora Levacher?
Alors tout à fait, donc je vous ai préparé un petit tartare de légumes racines avec des câpres, des cornichons, de la ciboulette, de la moutarde.
Oui.
Tout ça, donc les légumes vont être cuits en papillote dans le four pour essayer de garder le maximum de goût du légume.
De quel légume s'agit-il?
Alors là en l'occurrence, on aura de la betterave, de la carotte, un petit peu de céleri rave, un petit peu de navet et du radis.
Donc c'est un tartare pour la découpe, mais c'est pas un tartare pour... Pour l'état du légume dans la mesure où il est quand même cuit.
Il est quand même cuit, tout à fait. Et donc on va monter une petite vinaigrette avec de la moutarde et une huile assez épaisse.
N'en dites pas trop s'il vous plaît Zora, parce que tout l'enjeu justement, puisque ce tartare de légumes racines vous a été servi dans des petits gobelets en carton, Éric Vigeant, qu'est-ce que vous en pensez avant même de dévoiler l'identité de cette huile mystère?
Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et voilà, on découvre... On voit que le plat, on arrive à... Enfin voilà, on peut pas dire maintenant l'huile qui est présente là, mais voilà, on la retrouve assez facilement quand même, de par sa texture et sa couleur.
Après la première fourchettée, je commence à comprendre pourquoi vous avez quand même utilisé le mot tartare, parce que même s'il y a une cuisson, on est sur un certain croquant.
On est sur beaucoup de croquant. Donc 20 minutes, 30 minutes au maximum au four à 180 degrés.
On sent que ça fait du bien dès que, à la première bouchée. Hein. Alors, pour ce qui est de l'huile, moi je me prononcerai pas parce que c'est... Je suis un vieux monsieur et les vieux monsieur utilisent beaucoup cette huile.
Un indice. On approche, on chauffe. Même si elle est pas chauffée du tout, cette huile. Qu'est-ce que vous en pensez, Zazie, de cette recette?
Je trouve ça excellent. Et puis l'huile, elle vient vraiment l'assaisonnement englober comme ça les légumes. Et, ouais, je pense que.
Comme Éric Vigeant est un artisan sympa, il nous a glissé cette huile dans un petit godet transparent. On distingue une couleur absolument incroyable. On est entre, il y a des reflets vert fluo.
Oui.
Mais on est quand même sur une couleur sombre, on peut dire, presque pétroleuse.
Pétroleuse, rougeâtre. Et par contre, très verdâtre lorsque cette huile est dans une assiette, par exemple, et on voit sa couleur plutôt verdâtre, et avec un goût, je dirais, très original.
Comment on le qualifierait, ce goût, justement, Éric Vigeant, maître huilier?
C'est un goût qui est très, très végétal, et qui, évidemment, si on peut dévoiler maintenant l'huile, c'est le potiron, l'huile de pépin de courge.
L'huile de pépin de courge, elle a le vent en poupe, celle-là, en ce moment.
Oui, c'est une huile qui, manifestement, a des vertus nutritionnelles très intéressantes. Alors, tout à l'heure, on parlait assez rapidement de l'oméga-3, mais pépin de courge, c'est pas pour, je dirais, l'oméga-3, c'est surtout pour ses vertus dans sa globalité. Même s'il y a plus d'oméga 6 que d'oméga 3 et évidemment un petit peu d'oméga 9, mais ses vertus nutritives et nutritionnelles sont vraiment exceptionnelles.
Arnaud Daguin a évoqué la question des vieux monsieur. Allons un peu plus loin médicalement, s'il vous plaît.
Oui, c'est vrai qu'elle est très recommandée pour des petits soucis de prostate, par exemple.
Elle est très efficace.
Très efficace.
Voilà un alicament entièrement naturel, à fait recommandable pour les hommes passés un certain âge, on va dire. C'est à partir de quand c'est
passé la cinquantaine,
vers 50 ans qu'il faut faire attention.
Voilà. À partir de la cinquantaine.
Rassurez-moi, les femmes.
Vous avez encore un peu de temps, François.
Les femmes ont le droit d'en consommer.
Ah, tout à fait, oui, bien sûr, oui.
Nez de courge, finale poivrée.
Oui.
La bouche est douce avec des notes légèrement mentées ou mentolées. C'est un commentaire de dégustation de Denis Hervier dans votre livre. Alors, elle peut être en première pression afro ou gourmande. On va faire évidemment la différence. Mais ce qu'il y a de tout à fait surprenant, c'est que c'est une huile qui s'utilise davantage que comme un lubrifiant ou une matière première dans un plat. C'est véritablement un condiment, une épice, c'est cela, Zora. Pourquoi vous avez pensé à cette huile-là?
Alors moi je me suis amusée à faire plusieurs tests avec différents vinaigres, de la moutarde, des échalotes, et à chaque fois on avait des résultats complètement surprenants qu'on peut intégrer assez facilement dans les recettes. Donc ce qui est intéressant avec l'huile de pépin de courge, c'est qu'elle va avoir ce côté un peu caramélisé que j'ai lié là dans la recette avec la moutarde. On va avoir quelque chose qui va enrober assez facilement là dans ce tartare les légumes racines. Et effectivement, moi j'aime bien les huiles plutôt gourmandes que les premières pressions à froid, parce qu'elle va avoir plus de goût. Plus le goût va être accentué, on va avoir ce petit côté un peu fumé qui va venir rebooster tout ça. Donc,
Alors le clivage, ça y est révélé. D'un côté les huiles, première pression à froid. De l'autre les huiles gourmandes. C'est pas ce clivage n'est pas valable que dans la maison Vigan, votre maison familiale qui existe depuis 1930. Mais finalement c'est ça correspond à un processus d'extraction et de voilà. préparation, de fabrication. Quelle est la différence?
C'est deux procédés de fabrication différents. Vous avez donc les huiles de première pression à froid. Donc là, on parle du pépin-courge par exemple. Donc c'est une extraction à basse température qui ne dépasse pas 40 degrés. Donc voilà, et là on a tous les principes nutritifs qui restent dans les huiles. Et puis ensuite vous avez une huile dite gourmande à l'ancienne. Donc il y a une cuisson volontaire dans des chaudrons en fonte. Qui vont permettre justement de développer plus de saveurs, plus d'arômes, beaucoup plus de goût. Il y a aussi plus de couleurs, il y a des saveurs exceptionnelles. Et ça, c'est cette cuisson qui va développer tout ça en même temps. Pardon, mais elle sera moins diététique. Hein,
C'est ça, c'est-à-dire au détriment quand même, il faut bien le dire, des nutriments. Quand on prend par exemple des beaux cerneaux de noix qui nous viennent de Grenoble par exemple, puisque la maison Vigan fait une excellente huile de noix, vous avez l'option première pression à froid, où la noix est pressée en continu, sans choc, sans traitement thermique finalement.
Voilà, c'est tout à fait ça. Une extraction en première pression à froid.
Avec un tout petit peu moins de goût et une suggestion de goût de noix, on va dire.
Oui, l'huile aura le goût du fruit cru en réalité.
Voilà. C'est ça. Subtil.
Voilà, plus subtil, plus avec subtil. Plus de finesse, justement parce que c'est lié à son mode d'extraction.
C'est ça, et dans la version gourmande, si je suis bien ce qui est écrit dans votre livre, eh bien la noix a subi une certaine cuisson ou une torréfaction dans un chaudron.
Voilà, c'est ça.
Entre 100 et 140 degrés.
Voilà.
Et ce process renforce et intensifie le goût de la noix dans l'huile, évidemment, ce qui est très gourmand et très flatteur pour nos papilles. Oui. En revanche, quasiment tous les nutriments sont flingués ?
Non, pas tous. Non. Je dirais peut-être 30-40%. Cette huile-là, c'est surtout pour développer le sens au niveau du goût, des saveurs, des arômes. Bien sûr, il y a plus de couleurs. Et c'est vrai qu'on y retrouve beaucoup plus de choses. D'ailleurs, beaucoup de chefs utilisent les huiles gourmandes à l'ancienne, beaucoup plus que les huiles de première pression à froid. Mais d'abord, tout dépend un petit peu de l'époque, de la saison. Là, on est en période d'automne, d'hiver. C'est vrai que là, on va se laisser beaucoup plus glisser sur des huiles gourmandes à l'ancienne, avec plus de goût, plus de force, je dirais. Et puis, arriver au printemps, pourquoi pas avoir une cuisine un peu plus, avec des plats plus légers, avec une huile de noix ou noisette de première pression à froid.
Mais rien ne nous empêche de mélanger un peu des deux aussi, si on veut garder quelque part. Vous savez qu'en cuisine, on fait ça tout le temps. C'est-à-dire, on va chercher des arômes secondaires par des cuissons, par des torréfactions, par des manipulations, quelles qu'elles soient. C'est ça, la cuisine.
Absolument.
Et c'est toujours au détriment de quelque chose, de fait, quoi. Donc c'est l'équilibre de la fin qui compte, c'est
ça l'art de la cuisine. Il est vrai que bon nombre de tenants de la cuisine bien-être se plaignent justement de cette torréfaction de la noix dans l'huile gourmande en disant que finalement on s'écarte des vertus absolument phénoménales de la noix qui a des records en teneur d'oméga 3.
Oui.
On y vient justement, l'huilothérapie, car ces huiles sont intéressantes évidemment en termes de goût, mais également en termes de nutriments et diététiquement, nutritionnellement parlant, elles sont vraiment très précieuses par les nutriments, les vitamines et le bon gras qu'elles contiennent. Oui. Mais c'est vrai qu'on a totalement tendance à s'y perdre. L'affaire est assez complexe entre les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. On aimerait y voir un peu plus clair. C'est une question d'acide gras. Oui. Est-ce que vous pourriez nous les présenter en quelques mots, Éric Vigeant ?
Oui, on va rester sur un schéma classique et il faut rester aussi sur un schéma simple pour que les auditeurs comprennent bien, évidemment. L'oméga 3, c'est l'acide linolénique.
Oui.
Donc ça, c'est déjà un aspect déjà de cet acide oméga 3. L'oméga 6, c'est l'acide linoléique.
Oui.
Et l'oméga 9, c'est l'acide oléique.
D'accord.
Donc là, on parle de l'oméga 3. Eh bien, on le retrouve effectivement dans l'huile de noix. L'huile de noix en première pression à froid, extraite en première pression à froid, n'est pas celle qui a le plus d'oméga 3. Si on prend un classement, on va démarrer avec l'huile de lin, qui a un taux, un pourcentage assez élevé en oméga 3. On peut dire pour 100 grammes, vous avez 45 grammes en moyenne d'oméga 3 pour une huile de lin. en première pression à froid. Deuxième huile qui arrive, donc derrière le lin, vous avez l'huile Inca Inchi, qui est une huile très intéressante. Son fruit arrive du Pérou. Donc c'est une huile qui est...
Inca Inchi. On en entend pas mal parler. D'ailleurs, on surnomme ce fruit la cacahuète du Pérou, je crois.
Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc c'est une huile qui est très très intéressante, je dirais, concernant l'oméga 3. Et puis on arrive en troisième position avec l'huile de cameline, qui a une présence aussi non négligeable en oméga 3. Vous avez l'huile de chanvre et l'huile de noix, on y arrive. C'est pas celle qui a l'oméga 3, mais alors, l'huile de noix est connue, reconnue pour ses vertus multiples, je dirais.
L'oméga 3, on en a fait une espèce de graal, de miracle absolu, depuis notamment le succès dans les années 2000 du livre Guérir du docteur David Servan-Schreiber. On est revenu un peu justement sur ce culte de l'oméga 3. Oméga 3, oméga 6, alors oméga 3, dites-nous en un mot les effets médicaux de l'oméga 3.
Oui, ben, l'avantage et le plus de l'oméga 3, c'est qu'on retrouve dans ces huiles, le lin, la cameline, la noix, le chanvre, les huiles que je viens de citer, beaucoup de
qui ont
de
une folie, forte teneur. Hein.
Voilà, une forte teneur, donc en acides gras essentiels et surtout aussi en antioxydants, parce que chaque huile a aussi ses antioxydants, bien entendu. Et si là on parle de cette huile en particulier, il y a beaucoup de polyphénol, de phytostérol, donc une présence d'antioxydants très importante, et c'est ce qui est aussi très très bon pour la santé. Ça des bienfaits pour la santé très importants.
Et absolument, et ça prévient notamment aussi des maladies, de la maladie d'Alzheimer, des maladies cardiovasculaires, et en même temps, les nutritionnistes aujourd'hui, c'est un peu le nouveau discours depuis quelques années, c'est l'équilibre entre les omégas, entre le 3 et le 6, qui est bénéfique pour l'équilibre global de l'organisme en participant à la fabrication de nos cellules, au bon fonctionnement de notre système nerveux, réduction du stress, de la bonne humeur, diminution des risques de cancer de la prostate et de la maladie d'Alzheimer, on en parlait il y a un instant. C'est donc dans l'équilibre de ces oméga 3 et de ces oméga 6, autrement dit les acides gras polyinsaturés, que réside le bon équilibre en fait.
Oui, c'est ça.
Donc à quoi ça sert de se tourner trop vers une huile qui est concentrée en oméga 3 mais qui laisse tomber un peu les oméga 6?
C'est l'équilibre. c'est l'équilibre qui compte, et il y a l'oméga 3 bien sûr, très très important, l'oméga 6 et l'oméga 9. Et l'oméga 9 c'est l'acide oléique et on le retrouve principalement dans l'huile d'olive. Mais ce qui est très important, c'est pour moi, c'est cet équilibre-là. Peut-être qu'à une époque, on peut parler de l'huile de tournesol biologique de première pression à froid, c'est vrai qu'elle a une présence d'oméga 6 très importante au détriment de l'oméga 3. Mais vous avez l'huile d'olive qui est l'oméga 9, avec l'acide oléique, et là l'oméga 3 est très très peu présente dans cette huile, et pourtant elle a des vertus exceptionnelles, c'est une huile millénaire, donc c'est l'équilibre qui compte toujours.
Ça veut dire qu'il faudrait varier la consommation d'huile. Si l'huile d'olive par exemple a peu d'oméga 3 mais en revanche beaucoup d'oméga 9, ce qui est le cas, et ce qui permet de faire baisser le taux de cholestérol, de favoriser l'augmentation de la production d'un bon cholestérol et de prévenir également les maladies cardiovasculaires, il faudrait logiquement, pour avoir sa dose d'oméga 3, varier l'huile d'olive ou la mélanger éventuellement avec une autre huile.
Oui, parce que, regardez, on va faire juste un schéma simple. Pour un oméga 3, il faut 4 oméga 6.
D'accord.
Donc voilà un petit peu le ratio, un petit peu. Et puis, il faut savoir aussi que dans les monoinsaturés et polyinsaturés, on retrouve l'oméga 3, l'oméga 6, l'oméga 9. Et l'idéal, quand on parle de diététique, de nutrition et d'acides gras essentiels, les huiles saturées, il faut quand même, je dirais, celles qui le sont davantage, il faut quand même les éviter.
Voilà. Et voilà, bon, les huiles saturées, on va y venir avec nos amis chroniqueurs.
Elles ont aussi des vertus.
À côté, l'huile de panne, de l'autre, l'huile de coco, on tentera de les défendre tout de même.
Mais bien sûr.
Arnaud. Juste un mot du cuisinier, là. C'est l'alimentation, c'est un truc évidemment très complexe, c'est un domaine complexe, et on sait que les résultats, en fait, au niveau santé, ils sont directement liés à l'équilibre au fond et au ratio final de ce qu'on a consommé. Et c'est pas dans la journée, c'est pas dans la semaine, c'est dans notre vie.
En bien gros, sûr.
Et c'est notre terrain, il dépend de ça. Je vous envoie aux travaux de Pierre Veil, le président de l'association Bleu Blanc-Cœur, qui est en train de sortir en ce moment des études absolument intéressantes, même passionnantes, au regard de ce qui nous arrive en termes d'épidémie et tout ça, puisque on sait maintenant que c'est cet équilibre, ce ratio entre les omégas qui détermine détermine en fait notre capacité à nous enflammer ou pas. Or, l'inflammation à bas grade, c'est ce qui nous guette tous dans notre civilisation occidentale. Et j'envoie nos auditeurs à ces travaux, parce que comme ça, ils comprendront qu'il faut, il faut avoir la paix dans l'âme quand on parle de ces huiles, et que c'est l'équilibre à la fin qui compte.
Et s'il y avait donc une recommandation à faire à nos auditeurs, ce serait de varier les huiles pour varier évidemment les nutriments nécessaires à notre corps, puisqu'on rappelle que ces acides gras d'ailleurs sont disponibles dans l'alimentation, mais notre corps, notre propre corps ne peut pas les fabriquer. Il faut donc aller les chercher.
Là, c'est tout à fait ça. Donc là, effectivement, consommer une huile véritablement extraite en première pression à froid de culture biologique, c'est le plus, c'est vraiment quelque chose de très important.
Quand on parle de cameline, de lin, de chanvre, évidemment, rassurez-nous Éric Vigeant, toutes ces huiles alternatives n'ont pas vocation à remplacer les huiles que l'on connaît comme l'huile d'olive, l'huile de colza. Vous me disiez même en préparant cette émission qu'il y a vraiment un équilibre idéal qui permettrait d'avoir son bon équilibre d'oméga 3, 6, 9. Oui. Ce serait un mix quotidien entre colza et huile d'olive.
Alors oui, alors colza et olive, pour prendre un exemple très précis, 60% de colza et 40% d'olive.
Mélangé.
Voilà, assemblé, c'est un assemblage. Mais il y a encore plus équilibré en matière de, quand on parle d'oméga 3, si on reste sur les oméga 3, c'est l'huile de colza, de cameline et de lin. Et là, on a un ratio, un rapport oméga 3, oméga 6 et oméga 9, plus de la vitamine E, là on est parfait.
La Maison Vigeant a d'ailleurs sorti un assemblage.
Oui, qui s'appelle Oméga 3 Forte et qui est une huile qui répond vraiment à cet équilibre de l'oméga 3, 6, 9, mais plus particulièrement axée sur l'oméga 3.
Très bien. Zora Levaché, vous êtes très soucieuse évidemment du bien-être alimentaire. C'est même la vocation de votre métier, cuisine végétalienne, sans protéines animales. Vous prouvez donc qu'on peut tout à fait faire une cuisine équilibrée uniquement à partir de protéines végétales. Est-ce que la dimension diététique, nutritionnelle de ces huiles vous intéresse dans votre travail de cuisinière au quotidien ?
Bien sûr, on essaye, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de varier, donc d'essayer de faire des mix entre... on utilise beaucoup l'huile d'olive dans nos recettes, de l'huile de noisette, d'autres huiles aussi intéressantes. Maintenant, c'est vrai qu'on a un penchant pour les huiles gourmandes parce qu'on va avoir ce goût qui va ressortir un peu plus que les autres et qui va être aussi intéressant gustativement parlant.
Vous nous avez préparé plein d'autres surprises. On va parler notamment dans un instant de l'huile de cameline, qui est là aussi un énorme phénomène qu'on trouve de plus en plus et qui a, on va le voir, d'incroyables vertus gustatives et nutritionnelles. Mais pour l'heure, c'est le coup de l'âme de l'ami, de l'ami Arnaud Daguin.
France Inter. On va déguster.
Coco. Coco, le mot qui sert à tout. Coco, le fruit du cocotier, coco, le chevalu, coco. Coco, le communiste, le couteau entre les dents. Coco, le haricot de Paimpol, un peu musicien. Coco, le perroquet. Coco, le mec qui bosse dans la presse. Fais-moi 10 lignes, Coco. Coco Chanel. Coco, la coque. Coco, à la coque, dans son cocotier, tout frais pondu, du cucu, de la cocotte. Alors, de quel coco sera-t-il question aujourd'hui, hein, mes cocos? Eh bien, de celle à laquelle ma chérie et moi-même sommes complètement accros. Car oui, je l'avoue, nous nous adonnons à la coco. Disons-le, nous prisons la coco. De la cuisine à la salle de bain, à chaque heure du jour, toutes les occasions sont bonnes pour satisfaire notre addiction à la noix. À la noix de coco, d'où l'on tire l'huile qui, comme le mot coco, sert absolument à tout. Véritable concentré d'acide gras, on la trouve partout et légalement, cette coco-là. Son prix est étonnamment bas, comparé à son homonyme en poudre, mais elle est tout aussi addictive. Choisissez la première pression à froid, vierge et non raffinée, évidemment bio, évidemment. Si, selon vous, Coco cocotte un peu, préférez sa version désodorisée et invitez-la à partager votre cocotidien. Rien de plus simple, comme elle a le bon goût de se figer en deçà de 20 degrés, Coco se laisse toujours manipuler de bonne grâce. Le matin sur la brosse à dents, assaisonnée d'un soupçon d'huile de menthe et d'une pincée de bicarbonate, elle blanchit les mailles et protège les gencives. À midi, dans la poêle à frire, elle donne un peu de frais, une touche exotique au plus franchouillard des fricots. Et sur un chiffon, elle entretient volontiers vos cuirs et vos bois. Le soir, elle vient à bout du maquillage et du cambouis, appliqué sur votre chevelure, votre barbe ou votre pelage. Je n'oublie pas les animaux qui nous écoutent. Elle offre une brillance incomparable, comme dans les pires publicités. Sacré coco. L'été, elle apaise les coups de soleil, comme les piqûres d'insectes. Et l'hiver, elle soulage sécheresse cutanée et gerçure labiale. Et elle peut même, à l'occasion, lubrifier vos glissades avec le moniteur de ski. Non, François-Régis, je ne suis pas grassement rémunéré par la coco-collective des cococulteurs. Je tiens juste à vous rappeler que oui, on peut facilement remplacer la plupart des produits chers emballés dans du plastoc par deux ou trois ingrédients de base. L'huile de coco, le vinaigre d'alcool, le bicarbonate de soude, par exemple. Et comme je suis partageux, je vous conseille d'avoir à la maison un livre formidable. Que dis-je, un livre? Une Bible. Ça s'appelle simplement « Faire ses produits d'entretien maison » par Fern Green aux éditions Marabout. En voilà une cuisine intéressante, la tambouille des produits ménagers. Une façon élégante et saine de s'extirper de la consommation imbécile de marchandises superfétatoires. Et quelles économies! En ces temps où l'on cause beaucoup de décroissance, sans trop savoir ce que l'on met dans ce mot, vous avez là une occasion en or d'être décroissant. Ni beurre, ni ordinaire, décroissant à l'huile de coco.
Bravo Arnaud Degas. Je me demandais pourquoi justement vous aviez cette barbe de Père Noël bien lustrée. Ouais. Et toujours impeccable. Eh bien, j'ai la réponse. L'huile de coco. Alors, l'huile de coco, elle a vraiment été portée au pinacle il y a quelques années. On avait des articles dans la presse un peu partout. C'était une huile miracle avec laquelle effectivement non seulement on cuisinait mais qui servait à plein d'usages domestiques. On est un peu revenu sur cette idée. Éric Bigeon.
Oui, depuis quelques mois, le marché sur le territoire est plutôt en baisse. Alors c'est vrai que c'est une huile que j'appellerais multifonction, elle a beaucoup de vertus, de bonnes vertus, mais peut-être que d'un point de vue géographique, d'un point de vue, je dirais, écologie, on a connu aussi l'huile de palme, elle a eu ses heures de gloire, mais depuis quelques années, on voit bien que c'est plus le cas, que les choses ont beaucoup changé. Mais pour revenir à l'huile de noix de coco, je pense sincèrement qu'elle a de réelles et de bonnes vertus, c'est vrai. Maintenant, je me répète, compte tenu de son secteur géographique, ça vient de très très loin.
Ouais.
C'est assez compliqué, la transformation n'est pas simple, et les récoltes ne se suivent pas forcément d'une manière régulière. Donc de ce fait-là, il y a beaucoup de complexité au fur et à mesure des années.
Et par ailleurs, si elle fige, c'est qu'elle contient précisément des acides gras saturés. Alors ça, ce sont les acides gras un peu, on va dire, allez, on va la mettre dans la catégorie pour faire les manichéens des méchants, même si elle a, comme le dit Arnaud, effectivement, des insaturés qui sont très intéressants pour la santé. Oui. Elle a aussi des acides gras saturés qui, là, pour le coup, procurent du mauvais cholestérol.
Mais, qui la déséquilibre. Ce qui est, c'est le côté bien fait, le côté l'inverse, la rattrape cette huile un petit peu. Donc c'est assez contradictoire. Elle a ses vertus, il faut reconnaître ça.
Ce sont ces acides saturés qui d'ailleurs la fait figer, hein.
Oui, complètement.
Et la solidifie.
Oui, tout à fait. Comme l'huile de palme.
Comme l'huile de palme. Bah, décidément, vous êtes dans la même catégorie.
Si on va jusqu'au bout, comme l'huile hydrogénée qui a été inventée justement pour pas tâcher les doigts. Enfin, pour pas aller sur les doigts quand on mange le biscuit apéritif et donc
c'est
pour
tout
pas
à tâcher ça.
La cravate. Quand
et on... pour être transformable voilà. aussi plus facilement. Donc... Zora Levaché.
Alors, juste pour information, c'est vrai que l'huile de coco, on va beaucoup l'employer dans les desserts végétaliens.
Oui, donc, notamment pour son goût aussi.
Pour son goût, tout à fait, mais aussi pour son côté, enfin le fait qu'elle fige assez facilement, donc on va faire des cheesecakes, des choses comme ça, des crèmes avec, mais aussi, je voulais juste revenir sur le fait que il y a peu d'huile finalement qu'on peut utiliser à chaud, au-delà de 180 degrés hein, pour le point de fumée. Donc l'huile de coco cet avantage-là, comme un petit peu l'huile d'olive hein, jusqu'à 180 degrés, ou l'huile de tournesol.
Absolument. Voilà. Là, vous évoquez le point de fumée, c'est la température à partir de laquelle une huile fait finalement de la fumée, ça se voit visuellement.
C'est ça. Oui, oui.
Et au-delà, quand ça commence à piquer un peu les yeux et qu'il y a de la fumée, c'est pas très bon signe et ça veut dire que l'huile se dégrade.
Oui, toutes justement ne sont pas destinées à la cuisson, à la friture. Oui. Et là, quand on parle des oméga 3 et des huiles de première pression à froid, à l'exception de quelques huiles. Aucune peuvent subir pas plus de cuisson que de friture, rien du tout.
Il s'agit donc d'un usage cru, Zora.
Et juste, je rajoute un petit point, l'huile de sésame et l'huile d'Inca Inchi qu'on peut rajouter en fin de cuisson sur des plats qui sortent du four ou à chaud, donc jusqu'à 160 degrés, je crois.
Jusqu'à 160 degrés. Alors ça, il y a des tableaux très précis, notamment sur le site de la Maison Vigeant, pour aller analyser à la fois les teneurs en acides gras saturés, insaturés, mais également les points de fumée. Il y a des fiches très précises qui permettent finalement de faire son choix, au-delà même de la saveur et du goût de ces huiles. On se retrouve dans un instant pour évoquer d'autres recettes avec Zora Levaché, mais pour l'heure, une petite pause musicale avec une artiste d'origine brésilienne qui est violoncelliste, mais qui chante en espagnol. C'est Dom La Nena avec le titre Todo Tiene Su Fin. On va déguster mais de l'huile sur France Inter.
Comment si elle tient ilusión son tantos los sueños que tengo. No caben en una canción. Todo siempre acaba bien.
Déguster mais de l'huile sur France Inter et plus exactement des huiles végétales alternatives, c'est-à-dire toute cette diversification d'huiles qui ne sont pas les connues, c'est-à-dire celles qu'on utilise depuis des décennies, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide. Combien d'huiles dans la maison Vigan, Eric ?
Une quarantaine.
Et la maison existe depuis 1930.
Oui.
C'est votre grand-père qui l'a fondée.
C'est le fondateur, oui, mon grand-père, André, oui.
Votre père,
Philippe,
et a fait un choix très important dans l'évolution de votre maison.
En 1970. Donc, ça s'est fait grâce à une personne qui, malheureusement aujourd'hui, est décédée, mais Charles-Henri Geoffroy, qui était le fondateur de la Vie Claire, et ça a démarré en 1964. Mm-hmm. J'étais pas né d'ailleurs. Et à Clion-sur-Inde, dans notre village. Donc, on a eu beaucoup de chance de, dans notre famille, d'avoir pu rencontrer cette personne. Et assez rapidement derrière, il y a eu aussi le maire. Donc là, c'était aussi une grande.
Le maire, vous parlez du boulanger.
Oui.
Alors, une grande figure là, vous êtes en train d'évoquer la conversion de la maison Vigan. Oui. En bio,
oui.
Au bio,
oui.
Puisqu'on trouve vos huiles dans tous les magasins bio, dans de très nombreux magasins bio, avec une grande diversité.
Voilà. Oui.
Et c'est 95% de vos huiles qui sont bio.
Oui, tout à fait, oui. Oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'une huile alternative ou une huile végétale bio,
oui,
a plus de nutriments qu'une non bio? C'est plus le procédé d'extraction qui compte.
Si. Très concrètement, on prend une huile, une graine de tournesol. Très concrètement, on l'extrait en première pression à froid. Et puis après, en parallèle de ça, on extrait une graine de tournesol biologique,
mmh,
toujours en première pression à froid. Sur cette partie-là nutritionnelle, là, il n'y aura pas de, on trouvera, il n'y aura pas d'écart de différence. C'est pas ce niveau-là. C'est après, c'est sur le mode de production. Quand on parle d'agriculture biologique, bien sûr, il faut que ce soit exempt de tout produit chimique, pesticides et autres. Donc, mais c'est vrai que sur le profil nutritionnel, il n'y aura pas d'écart.
La Maison Vigan privilégie aussi des filières les plus courtes possibles,
oui,
et
oui,
les produits cultivé en France, quand c'est possible, mais c'est le quand c'est possible, c'est dans le quand c'est possible
au
que
maximum,
résident toutes les nuances, puisque
au maximum du maximum, puisque papa, enfin mon père a démarré le bio en 1970, donc les filières on les connaît bien et toujours au mieux, mais il faut être face aussi à la réalité. Et vous avez certaines graines qui sont quand même difficiles de culture en France, et le cas concret, le colza. C'est pas simple, c'est pas évident, voilà. Alors qu'en parallèle de ça, du colza conventionnel, non bio, il s'en récolte de gros volumes.
Et en l'occurrence, quelles sont les huiles qui sont le plus susceptibles d'être made in France ?
Alors, bien sûr, le tournesol.
Mm-hmm.
On trouve aussi des cerneaux de noix bio, biologiques.
Chanvre.
Le chanvre,
oui.
Bien sûr. La cameline, le lin.
Alors, la cameline, un mot sur cette huile.
Et d'autres elle a été graines encore.
Elle a été versée également dans les dans les godets. Zora Levaché, pourriez-vous nous faire une petite dégustation là en direct, au nez et en bouche?
Alors, l'huile de cameline, déjà, elle a une couleur magnifique, hein, qui est très semblable à celle du colza, puisqu'on est, je pense, dans la même famille.
Alors, on est dans la famille des crucifères, autrement appelée aujourd'hui brassicacées. C'est donc, pour être très schématique et caricatural, la famille des choux. Mais il y a une odeur, un parfum de chou jeune et un goût de chou aussi.
Oui, alors très végétal, mais aussi je trouve un peu de camomille.
Oui, c'est vrai.
Ouais, assez fort en goût. Et alors c'est une huile qui va très très bien se marier dans les vinaigrettes, les aioli ou mayonnaise, comme l'huile de colza. Elle s'intègre parfaitement dans tout ce qui est crudité, mais également dans les desserts. Alors moi j'ai essayé l'huile de cameline dans un yaourt nature avec un petit peu de sucre et c'était très très bon.
Oui.
Donc là je l'ai faite pour aujourd'hui, donc la version aioli.
Extraordinaire.
Avec donc on est plutôt sur une aioli végétale, il n'y a pas de jaune d'œuf.
Incroyable. Comment vous faites ?
Avec du tofu soyeux. On va monter ça un peu comme une vraie mayonnaise, avec du tofu soyeux, de l'huile, un petit peu de moutarde, un petit peu de vinaigre blanc, du sel et du poivre du moulin.
Qu'est-ce que vous en pensez, Zazie ?
C'est super bon. Mais il n'y a pas d'ail dedans ?
Si, un petit peu d'ail.
Mais de l'ail végétalien ? Non, je plaisante. Mais en tout cas, c'est vraiment... Alors ça, c'est un condiment absolument extra. On a envie d'y plonger. Allez, si on n'est pas végétalien, évidemment, un bon bulot. Ou on a envie de servir ça avec un poisson blanc un peu tiède.
Même une patate.
Des frites ?
Oui, ça se marie.
Les qualités nutritionnelles de la cameline, alors là, c'est carrément, ça relève de l'exploit.
Ah oui, parce qu'elle est en troisième position, donc rapidement, le lin est en première position.
Vous pour avez l'oméga 3. Hein.
L'oméga 3, l'huile Inkanchi, et là, la cameline arrive en troisième position. Donc, elle a une présence d'oméga 3 non négligeable. Pour 100 grammes, on arrive à 39-40 grammes, ce qui est non négligeable. Et on voit que l'oméga 6, on est à 19 grammes, l'oméga 9 à 15. Et puis, il y a une présence de vitamine E, c'est non négligeable aussi. Hein. Et puis, elle est très peu saturée.
Et voilà. La vitamine E
très peu saturée, bien évidemment. Donc, toutes ces huiles qui sont très riches en oméga 3, il faut prendre de grandes précautions pour leur conservation. L'oxydation peut se réveiller. Donc, il faut être attentif à la conservation.
Et l'oxydation détruit les acides gras insaturés.
Voilà. Et puis, ça acidifie, bien sûr, l'huile. Et l'acidité est quelque chose de très mauvais. Donc, il faut absolument éviter ça. Et pour éviter ça, il faut que le flacon, une fois ouvert, vous le laissez au réfrigérateur. Sur la durée de quelques mois, deux mois,
ça,
trois mois.
Je connais personne, ni moi ni autour de moi, qui mette ces huiles au réfrigérateur. Pardon, Éric Bigeon, mais
il faut le faire. Il faut prendre l'habitude de le faire, surtout sur les huiles qui sont très riches en oméga 3. Pas toutes les huiles.
D'accord.
L'huile d'olive, de sésame, de tournesol, de colza, sésame, non. Mais ces huiles riches en oméga 3, oui.
Et les protéger de la lumière aussi.
Oui.
C'est pour ça que vos flacons d'ailleurs sont assez teintés.
Opaque. Oui. Opaque.
Un truc opaque qui marche bien quand la bouteille s'y prête. Pardon. C'est des petites pompes pour mettre sous vide le vin.
C'est
pour
vrai.
Enlever l'air résiduel de la bouteille.
C'est vrai. Ah, absolument.
Avec les bouchons à valve.
Et pour éviter, ralentir ou éviter l'oxydation.
Absolument. Absolument.
C'est très bonne idée, Arnaud Daguin. On a plein de questions d'éditeurs auxquelles on va venir. Mais pour l'heure, c'est la chronique de Zazie Tavitian parce que c'est l'épouvantail dans les huiles végétales. Cette fameuse huile de palme, elle est assez mal aimée. Mais cette détestation ne doit-elle pas être un peu nuancée ?
On va déguster. Sur France Inter.
L'huile de palme, Zazie Tavitian.
Oui, c'est vrai que quand on pense à l'huile de palme, les mots qui nous viennent à l'esprit ne sont pas très réjouissants. On pense déforestation, culture intensive, obésité, célèbre et démoniaque pâte à tartiner. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette huile, issue des fruits des palmiers à huile, a un réel intérêt gustatif quand elle est artisanale et quand elle est non raffinée.
D'accord, mais il y a quand même des réalités qui sont la déforestation, l'obésité, tout ça, Zazie, c'est quand même vrai. Vous n'allez pas me dire que c'est un complot.
Oui. Comme Arnaud, je vous rassure, je suis pas à la solde d'un lobby pro-huile de palme qui m'a infiltré sur France Inter pour ma première chronique. C'est une réalité qui est très inquiétante même. La chercheuse et lanceuse d'alerte française Emmanuelle Grönemann découvre ce sujet en 98. Elle est alors à Bornéo, elle fait des recherches sur les orangs-outans et elle voit les forêts brûlées, elle voit ces grands singes qui errent sans habitat et elle dénonce alors cette production intensive et son impact sur l'environnement et sur les populations locales.
Donc c'est bien cette réalité de la déforestation, mais avant d'être utilisée à grande échelle, naturelle et d'avoir subi cette industrialisation, cette huile de palme, Zazie, était consommée. Mais alors où et par qui ?
Elle était consommée originellement en Afrique de l'Ouest pour la cuisine. On donnait aussi ses fruits aux animaux. Mm-hmm. Et c'est les Européens qui la découvrent au XVe siècle. Alors eux, ils vont utiliser les fruits très résistants pour nourrir les esclaves lors des traversées. Et c'est vraiment à partir du XIXe siècle que le monde industriel occidental, notamment celui de l'agroalimentaire, s'y intéresse. Il en raffole même, car on peut dire un peu malheureusement pour elle, elle a plein d'atouts, cette huile. Elle provient d'une plante facile à cultiver, avec un très grand rendement à l'hectare. Elle est peu chère et elle reste solide, donc grâce à son taux d'acide gras saturé, elle reste solide sous des températures très chaudes, ce qui facilite le transport. En fait, ce qui est dangereux, c'est pas l'huile en elle-même, hein, c'est sa culture irraisonnée, et puis c'est son utilisation effrénée dans les produits transformés. On la trouve dans des produits aussi farfelus que les palais bretons ou le pain de mie.
Oui, et souvent palais bretons, il y a marqué palais breton au beurre breton. Et puis on retourne le paquet sur la liste des ingrédients, il y a huile de palme, hydrogénée, etc. Bon.
Voilà, et aujourd'hui 85% de cette huile provient de Malaisie et d'Indonésie où la déforestation fait rage.
Pourtant, Zazie, depuis quelques années, on voit de nombreux produits estampillés avec des allégations du type sans huile de palme ou des certifications huile de palme durable. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah oui, les mêmes marques qui l'utilisaient sans vergogne mm-hmm. il y a 20 ans communiquent maintenant sur le fait qu'elles font des produits sans huile de palme. Et quant aux certifications, il n'en existe pas des vraiment satisfaisantes. Pour obtenir certaines d'entre elles, il suffit même de payer pour les marques. Donc on ne peut pas vraiment s'y fier. Et par contre, cette diabolisation de l'huile de palme, elle a un effet délétère, selon moi. C'est celui de pointer du doigt des cuisines où culturellement et avec sens, on utiliser ce produit.
Et ben voilà, il est là le cœur du problème, comme en Afrique de l'Ouest où on utilise de l'huile de palme, ou comme au Brésil. Alors moi personnellement j'ai eu la chance d'en faire plusieurs fois l'expérience, cette huile de palme qui est appelée là-bas...
Huile de dendê.
C'est ça, et qu'on met notamment dans la moqueca, dans tous ces plats un peu de ragoût, et qui apporte vraiment à la fois une couleur et un goût absolument extraordinaire.
Oui, bah alors moi j'ai voulu justement parler à un chef concerné par la question, il s'appelle Haroun Asso, il est chef formateur à la résidence du Refugee Food à Paris et il nous parle de son lien avec l'huile de palme.
Je suis né en Mauritanie, j'ai grandi au Sénégal. L'huile de palme c'est notre quotidien, on le consomme depuis l'enfance, surtout on le sert des plats à sauce comme le mafé ou sinon comme le bawwa, c'est le ngombo, c'est le plat traditionnel mauritanien. À la fin de cuisson, on mettait un peu d'huile de palme pour l'aromatiser. L'huile de palme, c'est comme la cuisine méditerranéenne avec l'huile d'olive ou la cuisine asiatique avec l'huile de sésame. La cuisine ouest-africaine, notre huile phare, c'est l'huile de palme.
Alors, quand je l'ai rencontré, il revenait juste du Sénégal. Il m'a ramené une huile artisanale qu'on a là devant nous. Alors, elle a cette couleur magnifique rouge-orangée.
Ah ouais, rouge brique, c'est surprenant.
Voilà, et je lui ai demandé comment elle était produite là-bas.
Cette huile de palme, je l'ai pris à Kédougou, c'est tout à côté de la Guinée. C'est une huile de palme qui est faite à l'artisanal, comme on fait depuis des décennies, qui est récoltée par des villageois qui le cuisent dans des fours à basse température pendant au moins 3 jours. Ensuite, ils le pullent au marché ou sinon maintenant, ils ont des machines manuelles pour extraire toute cette huile. Elle n'est pas raffinée, ils n'ont pas de raffinée, tout simplement. Quand je suis venu en France, j'ai commencé à entendre l'huile de palme, l'huile de palme, l'huile de palme, mais je me suis dit, c'est quelle huile on parle? Parce que moi, je ne connais pas l'huile de palme qui déforeste toutes les forêts.
Voilà, alors il cuisine beaucoup avec Haruna. Moi, je vous ai cuisiné sa vinaigrette qui est très simple. C'est 2 cuillères à soupe de huile de palme, 1 cuillère d'eau, du jus de citron vert, les zestes, du poivre.
C'est voilà. Bon. Et ça fait une espèce de coleslaw avec un petit goût que moi j'aime beaucoup. Elle a un goût assez caractéristique, cette huile de palme. Est-ce que vous incitez du coup nos auditeurs, chers Zazie, à utiliser l'huile de palme?
Alors, si on n'en utilise pas habituellement, je pense que c'est mieux d'utiliser une huile plus locale, comme celle dont on a parlé aujourd'hui. Mais pour les personnes qui cuisinent avec et pour les curieux, je leur recommande l'huile de palme rouge non raffinée avec le label bio. Hein, on en trouve dans...
Donc on en trouve, de l'huile de palme bio.
On en trouve, dans les épiceries bio. Et puis à Paris, on va en trouver dans le quartier de la Goutte d'Or. Alors pas forcément bio, mais directement importé d'Afrique. C'est un quartier du 18e arrondissement où il y a tous ces commerces africains.
Très bien. L'huile de palme, alors non pas réhabilité, parce qu'il faut faire encore une fois la différence, et on l'a très bien compris dans votre chronique, Zazie, entre l'huile de palme telle qu'elle a été produite et industrialisée à grande échelle et l'huile de palme dans ses usages traditionnels, notamment en Afrique.
C'est la vieille histoire de faire la différence entre le quoi et le comment.
C'est ça.
Voilà. Absolument. Donc là, on est sur une huile que je viens de goûter, là, qui est d'une profondeur absolument incroyable. Mm-hmm. Vraiment.
Je vais vous en laisser un peu pour en cuisiner.
C'est très très bon.
C'est vraiment tout à fait étonnant. Qu'est-ce que l'on déguste, Zora? On arrive un peu au terme de cette émission. Il y a encore d'autres petites choses très intéressantes.
Du coup, là, je vous ai servi une salade d'agrumes.
Oui.
Avec de l'huile de cumin noir.
Ah, alors l'huile de cumin noir, on l'a également. Très très intéressant, l'huile de cumin noir, on ne savait même pas que c'était possible.
Donc c'est une huile très caractéristique, très épicée.
Oui.
Un petit peu amer en fin de bouche et qui sent vraiment et qui a le goût du cumin noir, donc le nigel. Ouais,
ouais. Alors, cumin noir, c'est pas tout à fait du cumin, c'est une petite graine qui est noire qu'on appelle aussi nigel ou cumin d'Égypte.
Voilà, c'est tout à fait ça. Oui, c'est une graine très, très petite, très concentrée, noire, pas loin du poivre d'ailleurs. On n'est pas très éloigné.
Ouais, elle est légèrement poivrée, tout à fait.
D'ailleurs, avec les épices, c'est vrai, mais il y a aussi quelque chose qui me rappelle un peu quelques notes poivrées aussi, un petit peu, mais surtout épicées.
Et vous nous avez même apporté également une huile tout à fait extraordinaire, de l'huile d'abricot.
Oui, tout à fait, oui, qui est une huile destinée à usage externe. Mm-hmm. C'est une huile, bien sûr, alimentaire, mais à usage externe, une huile qu'on appelle bien-être, mais qui a des vertus aussi, je dirais, assez intéressantes, et surtout pour les plats à cuisiner, sur des desserts, des plats en général.
Et ben voilà, les échanges se font, ça c'est toujours le partage dans l'émission On va déguster. Et l'huile de chanvre est également une huile très intéressante.
Ah oui.
Alors qui revient en force, et pour le coup, le chanvre made in France, c'est vraiment une filière forte. Hein.
Oui, oui, c'est comme le lin, la cameline, le chanvre, là, c'est tout à fait... Le chanvier breton vient de Bretagne, avec des producteurs historiques.
Merci beaucoup Éric Vigean, la Maison Vigean, toutes les informations sur franceinter.fr, à la page On va déguster, avec une trentaine, voire une quarantaine d'huiles disponibles sur le marché. Merci beaucoup pour votre leçon de choses, Zora Levacher, Sonate, vivement la sortie du confinement, pour retourner chez Sonate, même si Sonate, rue Bourdaloue, Paris 9e, fait toujours un tabac.
Tout à fait.
Une adresse que personnellement j'aime beaucoup. La semaine prochaine, le gingembre est à l'honneur, frais ou en poudre, et on va voir que ce rhizome est même aujourd'hui cultivé en France et en bio. Déborah Dupont et Jérôme Gagnès seront dans les fauteuils des chroniqueurs. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.